fin, du sable blanc. Il le mit au four, prit la première fournée. Elle n'était pas assez cuite. Elle donna les hommes blancs. La deuxième fournée, elle était trop cuite. Elle donna les hommes noirs. Et la troisième fournée était parfaite. Elle donna les Polynésiens.
L'homme peut-il contrôler sa destinée? C'est la question à laquelle j'espère trouver une réponse.
Jukebox.
Des histoires en musique.
Oh, le futur est déjà écrit, il est irrévocable, on ne peut pas le changer.
Amaury Chardot.
Une page d'histoire mise en musique, Jukebox qui a pris ses quartiers d'été vous propose chaque week-end à 19h une série de rediffusions. Bonsoir à tous. Nous nous faisons parfois ici l'écho d'histoires où le métissage de musique traditionnelle à des sonorités venues d'ailleurs avait résonné comme une ouverture, un progrès. La question ce soir se posera autrement, tandis que nous nous échouerons au cœur du Pacifique, parmi des îlots et des atolls dont on sait qu'ils ne seront plus tous là demain, recouverts par l'élévation du niveau des mers. Depuis que l'Occident et ses premières caravelles étaient venus toucher ce bout du monde, les Européens, fascinés par ces milliers de confettis jetés dans l'océan, n'avaient pu s'empêcher d'en remodeler le quotidien, l'essence, qu'elle fût culturelle, musicale ou environnementale. Voyage ce soir donc en Polynésie française, Tahiti, Bora Bora, les Marquises, mais aussi des tristement célèbres Mururoa ou Fangatofa. Ce soir, la Polynésie, du mythe au paradis perdu. Les pages du livre vibrent dans l'air chaud qui balaye le pont supérieur. À la moindre inattention, le vent s'y engouffre et peut vous faire reculer ou avancer de 100 pages dans ce bruit si doux qui ne porte pas de nom. Alanguie dans un transat à l'avant des cheminées du navire, une jeune femme, le regard perdu, s'égare. Ils ont quitté l'Europe depuis près de 40 jours et aucune terre ne se profile. Le temps s'étire à l'infini que les autres passagers sont allés tromper dans le huis clos de leur cabine. Elle avait fini par s'assoupir et son livre par glisser à ses pieds. Lorsqu'elle avait rouvert les yeux, elle avait aperçu à l'horizon une petite voile blanche, frêle pirogue naviguant au-delà de la barrière de corail. Elle avait accéléré les mouvements de sa nage pour s'en approcher, survolée par des oiseaux, sternes huppées, fous bruns ou frégates. L'eau du lagon, translucide, cristalline et poissonneuse, semblait épouser les contours de son corps. Se retournant vers le rivage, elle avait contemplé les farés, les maisons traditionnelles faites de bambous et de palmes tressées, dispersées parmi les cocotiers, les cascades colorées des bougainvilliers, les frangipaniers et leurs parfums capiteux. Sur le sable, à l'ombre, elle distinguait des pêcheurs réparant leurs filets. Et puis elle avait poursuivi sa progression. Arrivée aux limites du lagon, elle avait tenté, par-delà la masse du corail, d'apercevoir la petite voile de la pirogue, laquelle s'était évanouie au large, dans la houle. C'est alors que la longue et lugubre sirène d'un paquebot avait retenti au loin.
Tamau atura, ite hakamau atura, a vivi na papaya wa o te kura matawai. tura da kutaura I te hakama wa tura A mimi na papaya wa o te kura matawai Tama wa tura da kutaura I te hakama wa tura A mimi na papaya wa o te kura matawai
Vaine Paumotu, autrement dit la femme des Tuamotu, enregistrée en 1949 par Eddie Lund et son orchestre.
Enfin, voici Tahiti dans une couleur extraordinaire et absolument unique, faite d'une combinaison de vert et de jaune, et pour laquelle la langue tahitienne a un mot spécial, Marearea. Le soleil s'infiltre jusqu'au fond des vallées, des montagnes imposantes ruissellent de nombreuses cascades. Et vraiment, devant cette beauté incomparable, chacun savoure en silence son admiration plutôt que de la traduire en exclamations banales.
Et je suppose que bien des yeux doivent se mouiller à ce moment-là.
Vous l'avez dit. Car pour beaucoup, c'est enfin la matérialisation d'un rêve longtemps caressé. Ce rêve qu'on fait et que font chaque jour des milliers et des milliers de gens sans pouvoir ou sans vouloir vraiment le réaliser.
Si en 1950, le paquebot emmenant Gabriel Linger, le reporter de la RTF, était arrivé à Tahiti depuis l'Ouest, les Amériques et le canal de Panama, quelques dizaines de milliers d'années plus tôt, les premiers Homo sapiens avaient débarqué depuis l'autre côté, depuis le sud-est asiatique. Profitant alors d'une glaciation qui avait fait chuter de 200 mètres le niveau des eaux, formant une langue de glace jusqu'à l'Australie. À ce peuplement primaire, qui avait débuté il y a 50 000 ans environ, avait ensuite succédé un autre peuplement vers l'est, depuis Taïwan, autour de moins 3 000. 1000 ans avant notre ère, des hommes seraient parvenus du côté des Fidji, des Samoa ou de la Nouvelle-Calédonie. Il faudrait encore attendre un millénaire et demi avant que les premiers humains ne se fixent dans la zone qui nous intéresse ce soir, aux Marquises, vers 300 après Jésus-Christ, puis sur nombre d'îles voisines. Hawaï, plus au nord, devrait attendre quelques siècles supplémentaires, autour de l'an 800. Évidemment, tout cela nous paraît ancien, mais cela constitue l'un des peuplements les plus tardifs du globe. Sautons encore les siècles, jusqu'au XVIe, au cours duquel les premiers Européens avaient débarqué, portugais, espagnols, néerlandais, se risquant dans cet autre bout du globe. Magellan avait approché Puka Puka dans les Tuamotu en 1521, puis c'est l'espagnol Alvaro de Mendaña qui avait découvert les îles Marquises. Au XVIIe, deux navigateurs hollandais avaient poursuivi les explorations. Mais la grande vague de recension de la zone, on la doit aux Britanniques, Samuel Wallis, mais surtout à James Cook, un jeune et brillant hydrographe qui débarque à Tahiti en 1769. Accueilli avec chaleur par les habitants de la baie de Matavai, dont il est frappé par les étranges tatouages corporels. Il sillonne les environs, atteint la Nouvelle-Zélande et l'Australie, puis, au cours de deux voyages suivants, repère nombre d'îles jusqu'à sa mort en 1779 à Hawaï. La France, elle, avait certes lancé quelques expéditions de reconnaissance, qu'on pense à celle de Bougainville sous le règne de Louis XV qui avait accosté à Tahiti, ou bien celle de La Pérouse sous Louis XVI. Mais la France décide de s'intéresser de plus près à ces îles afin de contrecarrer la domination britannique. En 1826, Jules Dumont d'Urville, un officier de marine et botaniste, y est envoyé par le ministère de la Guerre. 35 mois d'expédition qui permettent notamment d'établir une classification de l'Océanie en quatre ensembles, Malaisie, Mélanésie, Micronésie et Polynésie. Quelques années plus tard, la France annexe sans résistance les Marquises et, dans la foulée, instaure aux dépens de la reine Pomare IV un protectorat à Tahiti et dans les autres îles dites du vent, Muria, Mayao, Mehetia et l'atoll de Tetiaroa. En 1880, les établissements français d'Océanie sont créés, annexant quelques années plus tard les îles sous le vent, puis les lointaines îles australes. Dispersées sur 5 millions de kilomètres carrés de mer, l'équivalent de la surface de l'Europe, ce qui deviendra la Polynésie française compte 118 îles, dont 76 habitées. Partout, le 14 juillet, il devient fête nationale. Enregistré dans les années 1950 par Francis Mazière, ce chant religieux de Maupiti, l'une des îles sous le vent, située à 50 km de Bora Bora. La spiritualité qui irriguait depuis des siècles la Polynésie, ce paradis, cette nouvelle cité-ère comme Bougainville avait surnommé Tahiti, en raison de la douceur de ses mœurs, de l'incroyable beauté de ses femmes, qui toutes semblaient vouloir s'offrir aux nouveaux venus. Le malentendu persistera longtemps. Les croyances polynésiennes, faites du culte des ancêtres, de la méfiance envers les tupapahu, les esprits errants, mais aussi des célébrations de diverses divinités, Ta'aroa, le dieu créateur, Tu, le dieu de la guerre, Maui, le dieu de la connaissance, mais aussi celui qui, par son hameçon surnaturel, aurait pêché et créé les îles, ou bien encore Hina, la déesse de la lune et de la femme. Ce 19e siècle, les échanges entre populations locales et nouveaux venus s'intensifient. Tandis que jusqu'alors, dans les îles visitées par leurs expéditions, Cook et ses congénères avaient essentiellement légué tout un tas de réjouissantes maladies, grippe, coqueluche, oreillon ou rougeole, sans parler des maladies vénériennes. Au XIXe siècle donc, les missionnaires protestants, britanniques ou américains débarquent en nombre, notamment à Tahiti ou à Hawaï. Les catholiques ripostent et toutes ces églises se tirent la soutane pour la conquête des âmes. L'évangélisation, qui passe souvent par la conversion d'un chef, a bientôt des effets visibles. L'habitat, traditionnellement dispersé le long du littoral, se regroupe désormais autour des lieux de culte, temples ou églises. Les offices rythment le quotidien. On impose le port de vêtements, mais aussi le recours à l'écriture. Dans ces sociétés jusqu'alors exclusivement orales, ce sont les missionnaires qui s'attellent à la transcription de la langue tahitienne via 5 voyelles et 9 consonnes. Les Polynésiens apprendront longtemps à lire et à écrire à l'aide de la Bible. Dans le même temps, des baleiniers américains prennent leurs aises et hivernent au soleil, hibernation engendrant commerce et prostitution. Pareillement, la nacre et le bois de santal, prisés par les commerçants chinois, attirent des négociants qui troquent ces ressources contre de l'alcool, des fusils ou encore l'introduction du travail salarié, inconnu jusqu'alors sous ces latitudes. Bref, les choses changent vite, bien trop vite. « Terre de Tahiti, toute la douceur, toute l'âme de tes filles pleure la fin d'un grand amour. La chanson traditionnelle Tahiti Nui, Tahiti la Grande, enregistrée par la chanteuse Erena sur 78 tours à la fin des années 1940. Dès son premier voyage sur place, James Cook avait noté que la musique a pour les Tahitiens beaucoup de charme et qu'il montrasse une sorte de dégoût pour nos compositions savantes, les sons mélodieux que produisait chacun de nos instruments en particulier, approchant davantage de la simplicité des leurs, les ravissaient de plaisir. Plus tard, le même Cook écrira « Nous trouvâmes une habitation remplie d'un certain nombre de naturels. Il y avait au milieu du cercle deux femmes. Derrière chacune était un vieillard qui frappait doucement sur son tambour. Les femmes chantaient par intervalles et l'on n'a jamais entendu de chant si doux. L'assemblée les écoutait avec une attention extrême. Elle paraissait absorbée dans ce plaisir que lui faisait la musique. Des chants accompagnés de rares instruments, des flûtes nasales, le vivo, de conques, de tambours, ou bien simplement psalmodier a cappella, comme dans ce chant pour la sacralisation d'une pirogue, enregistré en 1958 sur l'île de Fatu Hiva, au sud des Marquises.
C'était pour un lancement de pirogue, lorsqu'une pirogue où un bateau était terminé, la disposition des rouleaux de bois servant au lancement avait une grande importance. C'était des bois qui sont tabous aussi, on appelle ça. Alors, on n'utilisait pas n'importe quel bois pour le lancement d'une pirogue. Il faut qu'il soit le plus dur possible, même si le vent vient frapper, ça ne se casse pas. Même les vagues, ils viennent frapper, ils ne se cassent pas. Ils résistent à toutes les épreuves. C'était sacré, les lancements de pirogues à l'époque. C'est pour ça qu'il y a tout ce chant.
la cérémonie de mise à l'eau d'une pirogue qui n'était pas rien alors quand on connaît l'incroyable sens de la navigation des peuples polynésiens, capables de relier îles ou atolls, éloignés pour certains de plusieurs centaines de kilomètres à travers l'immense houle, à bord de leur traditionnelle pirogue à balancier, pouvant atteindre plusieurs dizaines de mètres, se repérant grâce aux étoiles, au courant et au vent. Mais on le sent bien à l'écoute de ce chant, la confrontation entre tradition et modernité n'allait pas se faire sans heurts. Pour ce bout du monde, l'irruption de la civilisation occidentale est d'une violence inouïe. Au début du 19e siècle, les missionnaires protestants, on l'a dit, avaient donc, pour le besoin du culte, traduit la Bible en tahitien. Ces mêmes missionnaires, considérant les danses traditionnelles comme obscènes et donc sataniques, celles-ci avaient longtemps été interdites, comme le tamouré ou ori tahiti, qui se danse généralement en costumes végétaux et couronnes, les hommes tournant, torse nu, autour des vahinés, masquant leurs seins dans des noix de coco. Interdit également certains chants guerriers traditionnels. Ces chants et ces danses n'ont plus droit de cité sous la colonisation française que les 14 juillet ou bien lors d'arrivées et de départs de bateaux. Les Français qui par ailleurs, dès 1857, bannissent la langue tahitienne à l'école. Nombreux sont ceux parmi les voyageurs occidentaux à s'émouvoir de ces mesures restrictives. Nos missionnaires enlèvent une partie de la poésie, notait ainsi Paul Gauguin qui était venu poser son chevalet en 1891 à Papeete, puis aux Marquises 10 ans plus tard. Gauguin, vivant, il est vrai, malgré sa dénonciation de la corruption occidentale, en vrai pédophile sous les tropiques, entretenant des liaisons avec de très jeunes filles, 13, 14 ans, à qui il redistribuait généreusement sa syphilis. Recueilli à la fin des années 1940 dans l'archipel des Tuamotu, ce Tamouré Pico Pico, interprété par la chanteuse Irena, qu'on entendait déjà tout à l'heure.
Hey.
parmi les autres voix discordantes, celle de Victor Segalen, un jeune médecin breton qui débarquait en 1903 s'amourache de Tahiti. Devenu médecin de marine, il a l'occasion de voyager d'île en île, s'émerveillant de ce petit paradis dont il se met à documenter la douceur en ethnologue et en écrivain, inaugurant en 1904 la rédaction des immémoriaux ou bien écrivant concernant la musique. Des voix ont chanté pendant un millier d'années, peut-être sur des milliers d'îles, sans que l'on sache exactement par quel chemin elles ont pu voler et couvrir un espace si énorme. Ce fut, durant un long temps, un bruissement de beaux sons rauques ou bien plus doux, de rudes cadences ou souples, et une incessante mélopée. Chaque instant de la vie joyeuse avait son chant réservé, son mode de parler, sa danse originelle. Puis viennent les hommes blancs, tout se défigure, tout se fausse, et d'abord la race elle-même, une par une, les voix se taisent. De fait, 50 ans plus tard, ce ne seront plus tout à fait les mêmes voix à se faire entendre. France Culture, Jukebox, ce soir, Polynésie, ce rêve souillé. Et ce, même si tous les nouveaux arrivants sont, il est vrai, animés par un amour sincère de ces îles et de leur culture authentique. Prenons un autre nouveau venu. Il est musicien, il est né dans le sud de la France. En 1949, étudiant, il se retrouve stagiaire à bord d'un navire réquisitionné par l'armée en partance pour le tour du monde. Lors d'une escale à Papeete, il a le coup de foudre. Il termine ses études et revient 5 ans plus tard s'installer à Tahiti. Yves Roche, c'est son nom, est alors embauché par Radio Tahiti, dont la création avait été décidée en 1949 par François Mitterrand, alors ministre de la France d'Outre-mer. Radio Tahiti qui diffuse 3 ou 4 heures d'émission par jour, et Yves Roche, derrière la console, y officie comme technicien du son. Bienvenue dans la Radio Cocotier, titre qu'il enregistrera quelques années plus tard. Les cocotiers, qu'on associe instinctivement à la Polynésie, mais qui pourtant n'avaient constitué le paysage majoritaire de ces îles que très tardivement, lorsque, fin 19e, s'étaient perfectionnées les techniques de séchage de l'amande de noix de coco, la copra, et puis de l'extraction de l'huile. De nombreux archipels de l'océan avaient planté d'immenses cocoteraies pour répondre à la demande mondiale, assurant à leurs propriétaires, polynésiens, européens ou métis, des revenus confortables, moins pour les ouvriers qui y travaillaient. Pour en revenir à Yves Roche, à côté de son boulot à Radio Tahiti, qu'il poursuivra jusqu'en 1965, il se produit avec son groupe au Zizou Bar de Papeete. Il fréquente le milieu musical de la ville, et en particulier Gaston Gilbert. Né à Tahiti 40 ans plus tôt, Gilbert avait pas mal voyagé dans sa jeunesse avant de revenir à Tahiti, d'ouvrir un garage près de la cathédrale où il avait importé des voitures américaines. Il s'était passionné pour le cinéma, avait tourné quelques films, tout en se plongeant également dans la musique et d'ouvrir à Tahiti le premier studio d'enregistrement, mais aussi la première maison de disques, Tiare Tahiti Records. C'est là qu'Yves Roche enregistre ses premiers disques, le Radio Cocotier qu'on entendait à l'instant, ou bien en 1959, cette petite amie de la presqu'île, son orchestre accompagnant les chanteurs Mila, Loma et Alex dans cet air chanté moitié en tahitien, moitié en français.
Hey, hey, hey.
Un peuple essentiellement musicien. Ils ont exactement la musique dans le sang, ils ont la musique d'instinct. Vous avez le soir, au bord de la route, 3-4 garçons et jeunes filles qui se rencontrent, ils s'installent avec une guitare, un ukulélé, ils se mettent au bord de la route et se mettent à chanter jusqu'à 11h minuit. Et d'instinct, ils chantent à plusieurs voix.
Oui, ils sont généralement d'ailleurs des chants assez nostalgiques. Hein.
Il y a les deux, il y a le côté nostalgique et langoureux, mais pas triste, car chose extraordinaire, c'est peut-être le seul peuple musicien où on ignore complètement le mode mineur. Pas une chanson en mineur, même une chanson langoureuse ou triste.
Pendant la Seconde Guerre mondiale, le commerce et les échanges avec la France étant brusquement interrompus, les îles polynésiennes s'étaient rapprochées des États-Unis. En 1942, Bora Bora avait accueilli une importante base américaine et vu la construction du premier aéroport de Polynésie française, les liaisons aériennes se faisant jusqu'alors par hydravion. Les Américains, déjà implantés depuis le début du siècle à Hawaï, développent à cette époque, dans la foulée du succès en 1935 des révoltés du Bounty avec Clark Gable, ce qu'on appelle la culture tiki. Grand fourre-tout exotique mêlant collier à fleurs, monoï, chemise hawaïenne, cocktails exotiques servis dans des noix de coco ou bien goût du ukulélé. À Papeete, en 1950, on croise dans les rues des Chrysler et autres voitures américaines. La vie nocturne offre aux touristes de passage des dancing, le Lionel's, le col bleu, et puis il y a le cabaret chic, le Queen's, créé dans les années 30, sa silhouette de grange, ses portes de saloon. Sur scène, on chante sur des orchestres à l'occidental, piano, contrebasse, saxo ou guitare. On adapte des airs français ou américains en langue polynésienne. Les airs tahitiens eux-mêmes sont occidentalisés. Vers minuit, fin des concerts. La masse des bringueurs grimpe dans des taxis, des voitures, des camionnettes, direction le Lido ou bien le Lafayette, deux autres dancing situés en dehors de la ville, à l'entrée desquels de vieilles tahitiennes tirant sur des cigarettes vendent les traditionnels colliers de fleurs. C'est peut-être au cours de ces virées nocturnes qu'Yves Roche, notre ingénieur du son et musicien, avait fait la connaissance d'un autre exilé, un Américain, lui aussi proche de Gaston Gilbert. Il s'appelle Eddie Lund. C'est un pianiste américain né à Vancouver, tombé en arrêt à Tahiti en 1936 et qui était reparti lui aussi le temps d'épargner et de revenir se fixer sur l'île 2 ans plus tard en 1938. Apprenant rapidement le français comme le tahitien, Eddie Lund avait décroché une place de musicien dans l'orchestre du Queen's, puis il avait créé son propre groupe, Eddie Lund and His Tahitians, et sorti un premier album en 1954. Cette année-là, il enregistrait également ce poti Morea, cette fille de Morea, du nom de l'île située à l'ouest de Tahiti. Poti Morea, cette fille de Morea, un chant traditionnel revu à la sauce piano bastringue par l'américain Eddie Lund et son orchestre. Avec Gaston Gilbert, le fondateur de Tiare Tahiti Records qu'on évoquait plus tôt, Eddie Lund voyage également à travers les archipels pour enregistrer des artistes locaux qui pour la plupart n'avaient jamais vu de micro, s'évertuant à sauvegarder ce patrimoine traditionnel. Lund, qui développe un style de musique joyeuse et entraînante, typique de l'époque, mêlant sonorités polynésiennes, hawaïennes ou américaines. Même si son classique reste une chanson triste, Maururu Avo, une chanson d'adieu connue de tous et qui accompagne fin de soirée ou départ d'un être cher. Je remercie le Tiare Tahiti. La douleur de partir dans le vaste monde est grande. Je vais vous regretter, mes amis, mon amour, mais viendra le jour de mon retour et là, nous rechanterons ensemble.
Thank you.
Maururu Avo, 1958, Eddie Lund. La tristesse, le départ, ce sentiment de perte qui travaille décidément beaucoup des exilés qui échouent ici, comme Francis Mazière, un ethnologue français qui, en 1958, publiait une compilation de musique polynésienne accompagnée d'un texte. Il y disait « La musique polynésienne n'est pas une musique plaisante, elle est celle d'une myriade d'îles s'appelant sous les étoiles. Musique des hommes groupés dans le secret des plages, chant pour le vol des oiseaux ou la marée des vents. Musique éternelle pour la douceur de la rosée la nuit ou la mort d'une femme dont la beauté demeure. Musique qui offrit aux premiers aventuriers européens le miracle d'un paradis. Même si, notait déjà Mazière en 58, ce paradis se meurt. Le pire restait pourtant à venir. » C'est qu'à 15 000 km de là, à Paris, on s'intéresse soudain de nouveau à ces lointains territoires de la République. En 1946, on avait bien aboli la colonisation, accordé aux Polynésiens le droit de vote et un statut de territoire d'outre-mer. Mais ce début des années 1960, la France a d'autres ambitions pour sa Polynésie. De Gaulle court après sa première bombe H qui doit assurer la sécurité nationale. Sauf que l'indépendance algérienne empêche de poursuivre, comme c'était le cas jusqu'alors, les essais dans le Sahara. Il faut trouver d'autres sites. Ce seront les atolls de Mururoa et Fangatofa, distants de 45 km l'un de l'autre, choisis en raison de leur isolement. Décision est prise en 62 d'y créer un centre d'essais. Ça tombe bien, l'aéroport international de Papeete vient d'être livré. Dès 63, 300 ouvriers et techniciens débarquent à Mururoa pour y construire les premières infrastructures. Avant même la première explosion, tout change. 10 000 militaires et ingénieurs français affluent, ce sont pour la plupart des jeunes célibataires. La population de Papeete triple en une poignée d'années, à coup de transactions immobilières, d'une explosion de la consommation. Ce mouvement, qui draine nombre d'habitants des autres îles vers Papeete, engendre sur place l'explosion des bars qu'écument les marins français. Ces bars, boîtes de nuit, le whisky à gogo, le zizou, le bounty, le barléa et puis donc le Queens, où ces marins sifflent les serveuses, élégance de garnison qu'ils arrosent de bière locale.
Les essais nucléaires que la France se propose d'exécuter au centre d'expérimentation scientifique ont débuté aujourd'hui par le tir d'un engin expérimental à fission de plutonium. Aucun incident n'est à signaler.
Le 2 juillet 1966 a lieu le premier essai français dans le Pacifique, le 7e au total. Malgré les risques sanitaires et tandis que les militaires observent la chose à distance, on laisse dans l'ignorance les populations locales. Des populations à qui on demande juste de rester sous abri le temps que les vents dispersent les nuages radioactifs. Témoignage d'un habitant au micro de Stéphane Faure sur France Inter, février 2010.
J'étais à la première bombe. J'étais l'interprète du ministre Biot et je devais faire comme vous un interview au Gambier. Le 2 juillet 1966, à 5h34 du matin, j'étais à la première bombe. On devait faire un grand festin après, avec des dames jambes de vin, réjouissance pour la population. Malheureusement, dans la nuit, il est tombé de la pluie, comme ça. Et les militaires ont couru dans tous les coins. Le nuage est venu sur les gombiers. Le lendemain matin, il y avait un hydravion dans le lagon, et on s'est barré. J'ai pas fait d'interview, rien du tout. Bouche bée. Depuis ce jour-là, j'ai dit, messieurs, ne me prenez pas pour un imbécile. Et voilà, le combat. J'ai appris par la suite que nous étions contaminés 5 fois plus, 5 millisieverts, qu'on a reçu cette première bombe du 2 juillet 1966. Or, le corps humain, pour une année, ne peut recevoir qu'un millisievert. En une bombe, nous avons reçu 5 millisieverts.
Toutes les dispositions sont prises, comme vous le savez, pour que cela n'ait aucun inconvénient d'aucune sorte pour les chères populations de la Polynésie. Mais au contraire, cette installation, cette organisation est en quelque sorte le départ pour tout l'ensemble des archipels, le départ pour un grand et nouveau progrès.
Entre 66 et 74, la France avait mené 46 essais nucléaires atmosphériques en Polynésie, suivis à partir de 1975 de nombreux essais souterrains. Cette année-là, un matin de novembre, un voilier entre dans la baie de Hivahoa. À son bord, un homme qui cherche à fuir le monde, il est venu avec sa compagne à l'issue de 8 mois de voyage depuis la Belgique. Cet homme, c'est Jacques Brel. Ici, les gens ne le connaissent pas et lui fichent la paix, même si rapidement, il se fait connaître des Marquisiens, organisant avec sa compagne des goûters pour les petits élèves de l'école voisine, égayant les soirées nocturnes de Hivahoa en persuadant le maire de monter un cinéma en plein air. Surtout, depuis quelques années, Jacques Brel pilote. Avec son petit coucou, surnommé Jojo, il se met à faire des rotations jusqu'à Papeete, où il va une fois ou deux par mois. À chaque fois, une dizaine d'heures de vol aller-retour depuis les Marquises. Un vol périlleux, en l'absence de GPS, il faut piloter au cap et au chronomètre, et compter avec les vents qui peuvent faire dériver l'avion. Brel rend service, il achemine le courrier, va chercher un patient, transporte une femme enceinte, ou emmène les sœurs pour faire un baptême de l'air. Quelques années plus tard, c'est à Paris qu'il était allé se faire soigner et mourir, mais c'est aux Marquises, dans le petit cimetière d'Atuona, à Hivahoa, qu'il s'était fait inhumer au-dessus de sa maison, face à la baie des traîtres. Le temps s'immobilise.
Il parle de la mort, comme tu parles d'un fruit. Il regarde la mer, comme tu regardes un puits. Les femmes sont lascives au soleil redouté. Et s'il n'y a pas d'hiver, cela n'est pas l'été. La pluie est traversière, elle bat de grain en grain quelques vieux chevaux blancs qui fredonne Gauguin. Et par manque de brise, le temps s'immobilise aux Marquises. Du soir montent des feux et des points de silence qui vont s'élargissant et la lune s'avance. Et la mer se déchire, infiniment brisée par des rochers qui prirent des prénoms affolés. Et puis, plus loin, des chiens, des chants de repentance, et quelques pas de deux, et quelques pas de danse. danse. Et la nuit est soumise, et l'Alysée se brise aux marquises. Le rire est dans le cœur, le mot dans le regard, le cœur est voyageur, l'avenir est au hasard. Et passent des cocotiers qui écrivent des chants d'amour que les sœurs d'alentour ignorent. Les pirogues s'en vont, les pirogues s'en viennent, et mes souvenirs deviennent ce que les vieux en font. Veux-tu que je te dise, gémir n'est pas de mise aux marquises.
Brel, aux marquises, extrait de son ultime album paru en 1977. Cette année-là, les langues polynésiennes retrouvent leur place dans les écoles des îles. Mais il est temps de repartir.
Il me semble entendre le premier coup de sirène, déchirant les oreilles et les cœurs. Et je revois encore la foule se pressant sur les quais, cette même foule que j'avais vue à l'arrivée, avec les robes chatoyantes et les mêmes couronnes de fleurs, avec des taches rouges, des taches jaunes. J'arrive, au bout de 5 minutes, j'ai des colliers jusqu'au cou, au bout de 10 minutes, j'en ai jusqu'au nez, jusqu'aux oreilles, je ne peux plus les mettre. Je suis obligé de les mettre sur le bras, il y a également des colliers de coquillages fins. J'étouffe, je suis enivré par tous ces parfums, mais il faut monter la coupée. Et une fois arrivé au bastingage, il faut relancer quelques couronnes aux amis, c'est la tradition qu'il veut. On fait signe à un tel ou à une telle, on lui lance une couronne qu'elle emportera à la maison, en souvenir de celui ou de celle qui vient de partir. Et finalement, le bateau s'écarte du quai. Les derniers colliers qu'on voudrait jeter à un visage que l'on aperçoit déjà un peu loin tombent à la mer, et bientôt on aperçoit sur le lagon des espèces de nénuphars étranges et multicolores, ce sont tous les colliers de fleurs qui sont jetés par les passagers. Presque tous, évidemment, gardiens qu'ils laisseront sécher, qu'ils accrocheront dans leur chambre en France. Et en plus, une tradition veut que le dernier collier de Tiare Tahiti soit jeté à la mer juste au moment où le bateau franchit la passe. Et si le vent et le courant emportent la couronne vers le large, c'est un départ sans espoir. Et si le vent et le courant emportent la couronne vers l'intérieur du lagon, vers la terre, c'est signe que l'on reviendra à Tahiti.
Et votre couronne est retournée vers le lagon ?
Ma couronne est retournée vers le lagon, comme elles sont toutes retournées ce jour-là, le courant et le vent le voulaient ainsi.
Depuis, tandis que sur place des associations se battent pour que soit reconnu le lien entre les essais nucléaires français et l'explosion du nombre des cancers, que les indemnisations promises soient enfin versées, tandis qu'indépendantistes et autonomistes s'affrontent, d'autres périls menacent la Polynésie, comme la misère sociale ou l'obésité qui fait des ravages touchant 40% de la population. Surtout, on le sait, nombre des îles les plus basses de la Polynésie vont disparaître. La montée des eaux, qui par submersion pure et simple ou par la contamination des nappes phréatiques, condamnerait sous peu un tiers des atolls, comme celui de Rangiroa dans les Tuamotu. Ces atolls si fragiles que lorsqu'un cyclone y passe, leurs habitants en sont réduits à s'accrocher au tronc des cocotiers et à prier. Même si, comme le dit un proverbe tahitien, le corail croît, le palmier pousse, mais l'homme s'en va.
Omeyano, 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 Omeyano,
Ainsi se referme ce numéro de Jukebox, ce soir la Polynésie, du mythe au paradis perdu, une émission diffusée la première fois le 7 mars dernier. Rendez-vous sur le site de France Culture pour réécouter ou télécharger cette émission, y retrouver la liste des éléments diffusés et nous faire part de vos commentaires. Jukebox, une émission préparée avec l'aide d'Antoine Vios de la discothèque, de Marie Chauveau à l'INA, avec l'aide de Christophe Jolibois, ainsi que les services de la bibliothèque et de la documentation d'actualité de Radio France. À la technique, c'était Fabien Capel. Agnès Catou à la réalisation, au micro Amaury Chardot. À demain, 19h, pour un prochain Jukebox d'été.
Te pahi, au wewe, aere a ite ara.